Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Grandes Histoires et Bertrand Chamerois pour un écran de veille astral. Notre invité astral également, le comédien Melville Poupeau qui va nous parler d'OVNI, la nouvelle série de Canal+. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, l'humoriste Laura Lone qui n'a pas peur de raconter des histoires trash. Louise Bernard nous en dira plus. Et puis une grande batteuse de jazz qu'Eva Rock va nous faire découvrir. Bonjour Eva Rock.
Bonsoir, ça commence bien. Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Je vous dis pourquoi vous avez dit bonsoir, voilà. Parce que vous pensiez à la batteuse de jazz et le jazz ça se joue la nuit.
Exactement.
Bertrand Chamerois, bonjour.
Oui, joyeux Noël Philippe à vous.
C'est l'heure de l'écran de veille Bertrand. Et vous en savez plus sur ce que l'avenir nous réserve.
Oui, car contrairement à ce que dit le proverbe, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt mais à ceux qui donnent le cryptogramme de leur carte bleue à la chaîne Voyance. La chaîne YouTube de Claude Alexis, la star des voyants, le voyant des stars qui réalise des consultations en direct dans une ambiance de superlatif.
Et ce soir, soirée spéciale, émission spéciale, superbe émission, je suis aux côtés de Claude Alexis qui va faire le marc de café.
What else ? Soirée spéciale, émission spéciale, superbe soirée. Non, je t'ai plu, effectivement, je n'ai pas été déçu. Dès les premières secondes, j'ai senti que j'allais passer un bon moment. Car pour épauler Claude Alexis, il y a Manon, sa co-animatrice. Manon qui parle une langue dont j'ignorais l'existence. Ou alors elle se remet encore de son réveillon du 31.
Bonsoir Manon, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Vous allez bien ?
Très bien.
Et bon. Vous ? Parfaitement bien. Heureuse, comme toutes les tout le monde, je suis à vos côtés.
Je vous mets au défi de me dire si elle va bien ou pas. Et Claude Alexis fait comme si c'était tout à fait compréhensible. On réécoute.
Parfaitement bien, heureuse, comme toutes les élus, tout le monde, je suis à vos côtés.
Voilà, désormais, quand on me demandera c'est comment ça va, je répondrai ça. Vous le faites-le aussi, hein, c'est pratique. Si vous voulez rester vague, répondez comme à vos côtés. Voilà, c'est fou, mais ça reste une réponse. C'est tout Claude Alexis, ça. Hein. Il dégage un fluide si puissant qu'il trouble tout le monde, sa co-animatrice, mais également le standard téléphonique.
Vous devez bouger, vous, parce que je vois partir. Il faut vivre ce moment avec lui.
Et zut. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oh bah décidément.
La chaîne Voyance, une chaîne tournée vers l'avenir mais avec des moyens techniques du passé. En revanche, quand le standard n'est pas en rade, les révélations pleuvent.
Mais vous allez vous retrouver dans un ou dans une formation, dans un stage, Sylvie, à faire.
Sandra,
pardonnez-moi.
Oui, bon, petite erreur d'inattention sur le prénom, ça arrive. Mais pour le reste, c'est un sans faute pour le voyant qui a un véritable don de la nature.
Qui c'est qui s'intéresse aux chevaux ?
Je sais pas, j'ai personne de mon entourage.
Vous avez abattu ou enlevé un arbre devant chez vous ?
Non.
Oui, bon, il s'allume un coup sur deux, hein. C'est plus un clignotant qu'un voyant. Ce qui ne l'empêche pas de faire de grosses révélations à ses téléspectateurs. Voici la plus troublante. Une dame demande à Claude Alexis si elle va signer un CDD. Claude consulte le marc de café, il se concentre et là, une épiphanie.
C'est plus un CDI qu'on vous signe, si vous voulez, mais plus avec une durée, je dirais, entre guillemets, indéterminée.
Et oui, un CDI et pas n'importe lequel, avec une durée indéterminée. Bien vu, Claude, quelle vista. Voilà, c'est ça, la chaîne Voyance, une chaîne sur laquelle ils peinent même à prédire leur propre planning.
On se retrouve demain avec qui, Claude ?
Demain soir avec Léla Sam.
Ah, c'est pas moi demain ?
Non.
Mais pourquoi c'est moi demain ? On est quel jour ?
Demain est jeudi. C'est vous et Léla ?
Ah, c'est moi, demain!
Allez,
moi je dis non, dans le même pas entre eux.
C'est vraiment un bon gros dodo pour toute l'équipe de la chaîne Voyance.
Merci beaucoup, mais vous êtes qui d'ailleurs, vous?
Je suis Bertrand Chamerois.
Merci Bertrand Chamerois, il le fait très très bien, c'est même lui qui le fait le mieux. Eva, vous, vous êtes comme les voyants.
Vous savez
déjà ce qu'il faut regarder ce soir sur les écrans, le thème de votre zapping du lendemain.
Alors ce sont les petites histoires dans les grandes, ces histoires qu'on ignore souvent et qui font le sel de la grande histoire. Documentaire surprenant sur France 3, intitulé « L'Odyssée de la sandale en plastique ».
Non,
mais c'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est absolument passionnant.
J'en suis médusé
mais,
par avance.
Ah, bien joué. Mais oui, parce qu'on les appelle les méduses. Vous les avez aimées, détestées. Elles vous permettent quand même de marcher l'été sur les plages de Galets, n'est-ce pas, Bertrand ?
Tout à fait.
Ou sur les rochers et la création de ses chaussures est tout à fait étonnante. Tout a commencé en Auvergne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a suffi d'un surplus de PVC utilisé pour des manches de couteau au départ, on découvrait alors le plastique, et de l'ingéniosité d'une famille de couteliers. Avec ce PVC, ils ont commencé par fabriquer des anses pour les sabots de bois, puis des sandales, mais c'est un flop. Jusqu'au jour où une enfant du pays expatriée au Sénégal découvre ses chaussures, les ramène en Afrique, et là c'est un succès, et porter ses sandales devient un marqueur social.
Cette paire de chaussures avait tellement de prix à nos yeux qu'on n'osait pas les utiliser pour faire du sport. On l'utilisait juste pour aller en classe ou alors pour nos sorties samedi après-midi jusqu'au dimanche où chacun allait à son lieu d'adoration.
Pour aller donc aux églises. Voilà, des millions de sandales se sont vendues sur les terres africaines. Elles ont chaussé les militaires érythréens pendant la Révolution. Elles ont aussi vécu une forme de désamour, mais je ne vous en dis pas plus. Regardez ce formidable documentaire à la fois historique et sociologique. Sur LCP, la petite histoire s'invite aussi. C'est celle des débats télévisés du second tour des élections présidentielles en France. Alors, le premier date de 1974, Giscard d'Estaing face à Mitterrand. Ce dernier redoute l'exercice. D'ailleurs, il a établi une liste incroyable de demandes. VGE, lui, il adore l'idée du débat. Il a une seule exigence, comme le raconte Alain Duhamel qui animait ce moment.
Il y a eu des conditions qui ont été posées. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, pas énormément, sinon que sa calvitie qui était trop avancée pour son goût. Et donc son obsession, c'était l'éclairage sur son crâne.
Voilà, toutes ces petites histoires sont croustillantes. Et puis il y a une archive assez incroyable. On est en 1995, Jacques Chirac face à Lionel Jospin. Alors David est spécialiste, c'est le débat le plus ennuyeux parce que très technique. Et puis surtout, emprunt de respect entre les deux hommes, c'est-à-dire qu'on oublie les phrases assassines. Le débat vient de se terminer d'ailleurs. Et écoutez bien, tendez l'oreille, les deux hommes continuent à se parler de façon très cordiale.
On se fait plaisir quand on... Toute agressivité, on se fait plaisir, on fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça.
Oui, pour tous les militants.
Ah oui, oui.
J'avais eu la même chose. Tu vas le plier.
Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi,
oui, absolument. Alors,
mais l'ensemble des Français... Ça passe.
Pas tous, hein, pas tous les militants. Mais...
Non, bien sûr, c'est ceux qui crèvent.
Voilà, c'était le off de ce moment
génial,
incroyable, juste après le débat, exactement. Premier volet donc de ce documentaire passionnant, avec beaucoup de VGE, je dois le dire, et de Giscard, il en sera encore question dans la série à voir absolument ce soir sur Canal+. Ça s'appelle OVNI, mais je vous laisse la main, Philippe, sur ce sujet. Je récapitule, l'Odyssée de la sandale en plastique, c'est sur France 3 à 23h, et Face à Face pour l'Elysée, c'est à voir sur LCP à 20h30.
Merci beaucoup, Eva Rock. On vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable, à parler de jazz et de batterie. Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. À demain, vous savez ce que vous allez faire demain?
Je ne sais pas, je vais consulter le marc du café, mais je serai avec vous demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour.
Vous êtes comédien, également musicien, mais surtout comédien, énorme carrière déjà. À 10 ans, vous tourniez pour Raoul Ruiz, à 20 ans pour Romer, votre deuxième papa de cinéma, à 30 ans pour François Ozon, et depuis, près de 80 films et quelques séries, dont Insoupçonnable sur TF1. Mais là, votre actualité, c'est une série, OVNI, ça s'appelle. À la fin, il y a une parenthèse, il y a un S, il y a la parenthèse qui se ferme. Nouvelle série événement de Canal+, avec Géraldine Pellas et Michel Vuillermoz. C'est une création originale, comme ils disent à Canal+. Et le terme prend tout son sens, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît déjà, et c'est un compliment. Comment vous définiriez ce mélange des genres?
C'est à la fois de la science-fiction et de la comédie.
Avec de la nostalgie, bande-annonce.
Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin, les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN.
Moi, j'y connais rien, un ovni.
Mais il existe vraiment, ce bureau? Moi, je croyais que c'était une blague.
Donc, il était comment, ce vaisseau?
L'invasion a déjà commencé?
Commandant Valérie Delbrosse, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions.
Mais tu t'occupes des ovnis, toi, non?
Le travail, c'est plus important que moi.
Eh ben, disons que...
J'ai pas mon bonjour.
Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes.
Vous allez répondre à la question de la jeune fille. Il existe vraiment, le GEPAN?
Ben absolument, il existe. Il a un peu changé de nom aujourd'hui, mais il a été créé dans les années 70, fin 70, pour donner une explication à tous ces phénomènes que les gens voyaient à cette période dans le ciel.
Les gens pouvaient téléphoner, et puis chaque fois que quelqu'un appelle, la secrétaire, qui est la géniale Daphné Patakia, leur dit « Oui, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Est-ce que c'était des allumés tels que vous les montrez, ou ça c'est une part de comédie ?»
Alors, je pense que c'est une part de comédie, parce que moi je les ai pas rencontrés, mais ils ont donné leur accord pour qu'on parle de leur histoire et qu'on reprenne certains dossiers qu'ils avaient entre les mains. Les auteurs Martin Douer et Clémence Dargent les ont rencontrés et se sont inspirés de beaucoup de faits réels, à la fois des événements qui sont passés au GEPAN, des personnages du GEPAN et puis des témoins de, de cette époque-là, fin 70. Il y a eu beaucoup, il y a eu une recrudescence de visionnage d'OVNI dans le ciel.
Alors, qui est Didier Mature, avec un H après le T? Ça ne veut pas tout dire qu'il soit mature, c'est pas non plus totalement lacanien. Qui est Didier Mature, votre personnage?
Alors lui, c'est un scientifique très cartésien, très sérieux, qui est sur un programme spatial et qui travaille au sein du CNES, et qui, après un défaut de lancement de sa fusée, se retrouve un peu placardisé et prend la tête du GEPAN. Donc il se retrouve, lui, le scientifique très sérieux, à gérer des dossiers un peu farfelus de gens qui ont vu dans leur champ une boule lumineuse, d'autres des petits hommes verts, enfin voilà. Et il est censé donner une explication scientifique et rassurer les gens, sauf que ça ne se passe pas toujours très bien.
Je souris parce que dans l'épisode 5, vous donnez une conférence de presse improvisée au milieu d'un champ devant une bonne trentaine de journalistes.
Ça existe, c'est des réunions d'ufologie.
On va l'entendre. On va l'entendre. Non, c'est pas la réunion d'ufologie, c'était au milieu d'un champ. Et là, vous expliquez l'une des expériences de pensée les plus célèbres de la physique moderne, c'est le chat de Schrödinger. Extrait.
En science, on peut pas toujours répondre par oui ou par non. Il y a certaines questions qui amènent plusieurs réponses et elles sont toutes valables. C'est comme le chat de Schrödinger. Bon, vous prenez un chat, vous le mettez dans une boîte avec un poison ultra-violent qui a une chance sur deux de se déclencher et de tuer le chat, ou de ne pas se déclencher et de ne pas tuer le chat.
Mais quel genre de sadique fait ça?
Non, mais on ne tue pas le chat, madame. C'est purement théorique. Bon, eh bien, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, le chat se trouve dans deux états simultanément. Il est mort et vivant en même temps. Il y a deux réalités qui coexistent. Est-ce que vous comprenez ça?
Non.
J'attends ce que personne comprend. Ce qui est ça, évidemment, la théorie du chat Schrödinger est authentique. Ouais. Ce qui est passionnant dans cette série, c'est qu'elle se fonde sur beaucoup de faits scientifiques, pas seulement des élucubrations. Et même dans les élucubrations, c'est avéré. Exemple, des gens qui ont découvert au milieu d'un champ une énorme boule recouverte de miroirs, 3 mètres de diamètre, plus haute qu'un homme. Explication.
Mamie, c'est une boule à facettes.
Quoi?
Ces machins qu'on accroche au plafond dans les dancings.
Je viens d'avoir de centrale. Un camion a eu un accrochage. Il transportait le décor pour un concert de Jean-Michel Jarre et il a perdu ça.
Mais ça, c'est véridique.
Là, on est en musique.
Hein. Mais oui, ça c'est vraiment arrivé, effectivement. Un décor de Jean-Michel Jarre s'est décroché, s'est retrouvé dans une forêt, une boule à facettes géante, ça fait toujours un peu bizarre.
Non, mais c'est pas que ça fasse bizarre, c'est qu'il y a des gens qui appellent le GEPAN pour ça, en disant, tiens, il y a les ovnis, ils arrivent, ils sont parmi nous.
Je conseille à tout le monde d'appeler le GEPAN. Ils ont beaucoup de dossiers à traiter, mais ils aiment ça.
Dites pas ça, parce qu'ils vont être submergés d'appels. Vous restez avec nous. Là aussi, c'est très, très, très inattendu. C'est votre portrait par Alain Manarino. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Melville Poupeau à l'affiche d'OVNI, nouvelle création originale de Canal+. Ça démarre ce soir, 12 épisodes de 30 minutes. Elle aussi, c'est une création originale. Bonjour Hélène Manarino.
C'est beau, bonjour Philippe Vandel.
J'aurais pu dire que vous étiez un OVNI.
Bah, je ne sais pas ce que je préfère finalement. Bonjour Melville Poupeau.
Ça sera un portrait non identifié.
Exactement, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors comme vous dites très souvent à votre maman, t'inquiète pas, ça va aller. Vous êtes là pour OVNI, alors ce côté un peu science-fiction, scientifique. Ce matin, je vous propose tout simplement d'entrer dans le laboratoire de votre vie. Alors professeur Mélie ou professeur Melvillimus, votre surnom quand vous étiez petit, vous avez toujours été doté d'une grande curiosité pour comprendre votre spécimen, on va reprendre depuis l'enfance. Le décor pourrait être le château de Skeletor, votre jouet fétiche. Passionné des maîtres de l'univers, de la guerre des étoiles, jamais sans votre doudou, le lion Titus. Vous avez...
Il me regarde. Non, je ne l'ai pas avec moi.
J'avais pas de doudou.
Vous avez toujours baigné dans l'univers des inventeurs, puisque votre maman inventait les histoires. Le soir, il y avait celle du cochon que l'on découpait et celle de l'homme mou qui ne tenait pas sur ses jambes. Vous vous souvenez?
Pas du tout.
Super.
Oh, dis donc, allongez-vous, ça s'appelle un déni. C'est très connu en psychanalyse.
Je sais pas où t'as chopé ça.
Fan de Christophe Lambert de Goldorak, de votre première console de jeu, la ColecoVision, et du jeu du nain jaune. La chimie opérée surtout avec votre frère, Yarol. La chambre était commune aux deux. Vous aviez acheté, avec votre argent de votre premier film, donc à l'âge de 10 ans, une batterie bleue. Elle était dans votre chambre avec les amplis et la guitare de votre frère. Vous faisiez beaucoup de musique ensemble, ce qui rendait d'ailleurs d'ailleurs assez dingue. Les voisins, normal. Alors Melville, vous avez su être aussi très pragmatique concernant les jeux. Il fallait que ce soit pratique. Vous étiez déterminé pour ça. Vous jouiez systématiquement dans l'appartement familial avec un gros ballon en mousse. Vous faisiez des passes avec votre frère, sauf que, évidemment, vous avez cassé quelques objets assez chers. Et quand votre maman criait « Qui a fait cette connerie ?», vous répondiez en chœur « Nous deux ».
Et oui, c'est drôle, vous êtes c'est vachement bien.
Jamais balancé l'un et l'autre.
On essayait.
Ouais.
Alors Melville Poupeau, vous avez toujours su approfondir également vos connaissances musicales, le blues, le rock, le reggae. Vous n'avez jamais été bercé aux comptines. En revanche, vous êtes devenu dylanophile. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Fan incontournable de Bob Dylan, vous avez tout exploré de lui. Vous analysez tout ce qu'il fait, ce qu'il chante, ce qu'il dit. Vous êtes surtout très vite passé à ce qui était présent dans vos gènes depuis le début, le cinéma. Vous pouvez revoir en boucle Le Contrebandier de Moonfleet ou encore L'Autre de Robert Mulligan. Vous avez commencé très tôt, vous aimiez jouer pour votre grand-père qui avait une caméra Super 8. Il écrivait des petits scénarios pour les petits-enfants et chacun jouait. Le plus célèbre s'appelait « Un ami viendra ce soir » et vous aviez 6 ans.
Wow.
Je continue ?
Je vous avais eu ma mère au téléphone.
Je ne vous dis pas. Avec votre argent, Melville Poupeau, vous avez aussi acheté un caméscope, ce qui vous a permis de réaliser vos petits films dans votre chambre. Vous avez surtout réalisé le film de la tournée du groupe que vous aviez dans les années 90. Le film de la tournée s'appelait The Mud Last Chance. Une tournée où vous aviez l'habitude de passer la tête sous les machines qui servaient à cirer les chaussures dans les hôtels.
C'est vrai,
si ça nous a réussi.
Ah, c'est drôle.
On n'était pas forcément à jeun.
Ouais.
Et puis...
On imagine un peu, ouais.
Il y avait vos missions qui ne s'arrêtaient pas là, Melville Poupeau. Vos expéditions étaient aussi sportives, notamment avec vos grands-parents, Tep et Mamie. Vous passiez des heures à jouer au padel tennis. Mmh. Le tout accompagné d'une alimentation saine, puisque vous aimiez manger du concombre. Vous le preniez dans vos mains et vous croquiez directement dedans. Voilà.
Comme tout le monde.
Non, tout le monde ne fait pas ça.
Non, tout le monde ne fait pas ça.
Vous avez également toujours bien travaillé et accompagné de votre grand amour rencontré à l'âge de 16 ans, Chiara Mastroianni, évidemment. Chercheur dans tous les domaines, vous vous passionnez aujourd'hui pour les croyances, les religions. Mais votre plus beau résultat, celui de votre vie, c'est votre fille que vous adorez voir évoluer, âgée aujourd'hui de 19 ans. Vous lui montrez tous les films importants à voir. Une fille qui, pour la première fête des grands-mères, s'était habillée avec un petit chapeau à fleurs, avec un gros bouquet de roses dans les mains, comme lorsqu'il s'agissait d'une présentation officielle. Melville Poupeau, il y a aussi ce voyage à Venise avec votre maman et votre fille. Venise qui reste votre ville de cœur dans laquelle vous rêvez de vivre. Alors, un projet peut-être encore un peu abstrait. Vous continuez de développer vos théories, votre esprit de curiosité, acteur, réalisateur, dessinateur, musicien, écrivain. Melville Poupeau, vous avez l'un des labos les plus complets où la magie a l'habitude d'opérer.
Merci.
Merci les réactions.
Ah ouais, c'est très gentil.
Ouais.
Merci maman.
Ouais.
Et merci Yarol.
Voilà, merci mon Yarol frère. Aussi. Voilà. Et puis il y a des concombres qui arrivent, qui sont livrés. Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain Hélène.
À demain.
Merci. Vous restez avec nous, Melville Poupeau évidemment. Dans un instant, notre premier indispensable, nous sommes avec Eva Rock qui va vous faire découvrir une grande figure du jazz qui va certainement vous plaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Melville Poupeau, OVNI, la nouvelle création originale de Canal+, c'est lui qui l'incarne, il n'est pas seul. Il y a Géraldine Pellas, il y a Michel Villermoz. Grande place est donnée aussi à la musique dans cette série. Est-ce que ça se passe dans les années 70 ?
Absolument.
Il y a à la fois des golds d'époque, il y a du Jarre, il y a du Dalida, oui. Et il y a aussi de la création, il y a de la musique.
Tilassine, qui est un très très bon musicien, qui a l'habitude de travailler avec Anthony Cordier, le réalisateur, et qui a fait un travail incroyable, à la fois référencé et moderne. On est à la fois nostalgique et contemporain, c'est très très fort.
Et avec des sons d'époque, des synthés.
Et il y a un vinyle qui sort bientôt aussi de la musique originale.
Ah oui ?
Un très beau vinyle, ouais.
Magnifique. La musique, vous êtes aussi musicien en quelque sorte, vous, on peut le dire comme ça ou pas ?
À mes heures perdues.
Enfin, les heures perdues et parfois même gagnées. Vous avez joué avec Benjamin Biolay, ça s'appelait Songbook.
Ouais.
C'était au départ une blague de potes, hein, comme ça, puis c'est devenu une belle opération.
Absolument, il y a 2 ans, on a sillonné la France entière dans notre bus, le Black Pearl. On a fait 50 dates dans toute la France et puis 2 Olympia, oui, c'était magique.
Et vous faisiez quoi ? Enfin, je le sais, mais dites-le. Vous
étiez... On rigolait, on picolait.
Vous n'avez pas fait que rigoler et que picoler, vous avez
quasiment
joué un peu.
Même sur scène, parce qu'avec Benjamin, on est tellement copains et c'est tellement un beau voyage que tout se mélangeait, le spectacle, l'amitié, les copains, la route, le voyage. Non, c'était vraiment magique.
Et vous avez même chanté ?
Et j'ai même chanté un petit peu, poussé la chansonnette.
Tiens.
Ce n'est que de l'eau, ça n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ça n'est que de l'eau, camarade.
Je souris parce que je viens de comprendre le titre, ce n'est que de l'eau. Je savais pas que vous passiez votre temps
non,
à picoler.
Je viens de comprendre
la saveur de ce titre et pourquoi c'est vous qui chantez. Vous jouiez également tous les instruments. On voit la guitare, on voit la basse et on vous voit
au ballet, à la
avec
batterie.
Les ballets, au ballet, à la batterie, jazzy.
Ouais, c'est mon
vous êtes batteur
fétiche.
De formation.
Absolument.
Mais moi, je vous imaginais plutôt comme le batteur du Muppet Show.
Bah, je l'ai fait aussi.
Joe Tapdur.
Oui, ouais, Jean-Marie, là. Oui, je l'ai fait aussi.
Ouais.
Je le fais aussi. J'ai un nouveau groupe avec mon frère et Victor Mécanique qui s'appelle les Diggers,
ouais.
Où je fais la batterie. Là, c'est, ça tape plus fort. Avec Benjamin, on avait choisi de faire un répertoire un peu chanson, jazz, un peu crooning.
Ouais.
Donc, je m'étais mis au ballet.
Voilà. Vous aussi, Eva Rock, vous êtes crooning. Ballet, c'est
oui,
écrit
bien sûr, hein.
B-A-L-A-I-S. Ça ne veut pas dire qu'il danse en tutu. Ça veut dire c'est les ballets. Qui font ce son très jazzy.
Exactement, ça fait... mais pourquoi vous m'expliquez des choses comme
mais
ça
mais pas vous, je le dis aux auditeurs,
ah oui,
parce qu'on n'a pas le son. Je sais que vous savez ce qu'est un ballet en jazz, puisque justement, vous allez nous parler d'une batteuse.
Bah oui, alors je ne voulais pas vous le dire, mais maintenant qu'on l'a dit, oui.
Je l'ai dit 10 fois
mais
dans
oui,
les.
C'est pas grave.
J'ai
c'est
tout
pas
spoilé
grave.
Depuis le début.
Non, j'ai fait une chronique spécialement pour vous, Melville Poupeau.
Merci.
J'avais très envie de vous faire découvrir une artiste américaine. Mmh. Tendez bien l'oreille.
How much can we. Endure, time will tell. We'll suffer through, then rise again.
Alors la voix c'est celle de Mark Keeble, mais c'est pas de lui dont je voulais vous parler, c'est la personne derrière qui fait
qui
le rythme.
Chante.
C'est un homme qui chante, exactement.
Incroyable.
Et la personne qui est derrière et qui joue du même instrument que vous, Melville, à savoir de la batterie, elle s'appelle Terry Lyne Carrington. C'est une immense batteuse, compositrice, productrice. Et elle a sorti cette année un excellent album, Waiting Games. C'est le nom du morceau que l'on vient d'entendre.
Moi, je ne suis pas connaisseur comme vous, Eva. Elle est connue dans le monde du jazz.
Ouais, elle est très connue et surtout, elle est très respectée. Elle a 55 ans. Elle a joué avec les plus grands, de Dizzy Gillespie à Herbie Hancock, en passant par Wayne Shorter ou encore Al Jarreau. Et c'est une femme exceptionnelle qui a un talent. Elle sait multiplier les projets en s'inspirant de toutes les musiques. Du jazz, du hip-hop, de la soul, du rock, de la musique classique. J'aime beaucoup le titre qui suit, qui s'appelle Bells, sur lequel on entend son toucher si subtil à la batterie et la voix magique de Debo Ré.
On faisait le même geste
oui.
Avec mes lupeaux,
le ouais.
Les petits triolets sur le charleston.
Ouais, exactement, tu joues de la batterie aussi
très mal. Mais je sais ce qu'est un triolet sur un charlet.
Mais c'est ça, c'est parce qu'on se concentre aussi sur la batterie quand on sait que c'est elle qui mène le projet.
Oui.
C'est une chanson dans laquelle il est question de justice, du mouvement notamment Black Lives Matter.
Et c'est une artiste engagée.
Oui, et sa musique est le fruit de cet engagement, de sa réflexion. Son dernier album est un manifeste. C'est un manifeste qui fait écho à l'actualité américaine. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Elle y exprime son sentiment de révolte qui est suscité par l'homophobie, par l'injustice, le génocide des Indiens dont elle parle beaucoup, de l'exil des prisonniers politiques. Et ce qui est remarquable chez elle, c'est qu'elle ne se cache jamais derrière son instrument. Le titre qui suit s'appelle « Can't Resist » et c'est elle qui chante. Alors je vous conseille de regarder.
Ouais.
C'est difficile de chanter et de jouer en même temps quand même.
Ah ouais,
c'est
oui.
Vraiment.
Yaron l'a fait sur la première tournée de Mud. Ouais.
Et c'est vraiment très difficile. Je vous conseille de regarder les vidéos de ses prestations pour voir à quel point elle est très calme, elle est concentrée sur son instrument, avec parfois pourtant de la musique très énergique. Mm-hmm. Et donc elle est même capable de chanter sur ces titres-là. Alors pour ceux qui sont sensibles au free jazz, ils seront servis. Elle aime ça et le revendique. Moi, j'ai une prédilection pour les morceaux un peu plus harmonieux, plus poétiques, c'est mon côté midinette. Écoutez notamment ce titre avec Cassandra Wilson, Simply Beautiful.
If I gave you my love, I tell you what I do. I'd expect
out of you.
J'adore cette chanson.
Une reprise d'Al Green.
Ouais, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est très très beau. Dans une récente interview à Jazz Magazine, Terry Lyne Carrington espérait que Trump ne soit pas réélu, veut exaucer. Son album reste évidemment, lui, d'actualité. Et je me posais une question, ma vie de Poupeau. Est-ce qu'il y a un point commun entre le fait de jouer la comédie et de jouer de la musique, selon vous ?
Non, j'en ai pas trouvé. À la limite, la voix, quand on chante, oui, et c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise. Mais sinon, les instruments, non, pas du tout. J'ai jamais fait de parallèle. Voilà. Bah, déjà, t'as ton instrument, tu peux être derrière, tu sais ce que tu dois jouer. Acteur, t'es nu, t'es tout seul. En fait, tu recommences à zéro à chaque fois que tu fais une nouvelle prise. C'est un métier très, très difficile.
Merci beaucoup, ma vie de Poupeau. Et un mot sur ce qu'on vient d'entendre, la batteuse ?
Bah, excellente batteuse,
ah oui.
Moissonneuse batteuse.
Je ne m'attendais pas à celle-ci. Merci beaucoup Eva Rock, je vous dis à demain. Comment tout plier en 5 secondes.
Ah oui. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média en compagnie de Melville Poupeau. Il est à l'affiche d'OVNI. Ça démarre ce soir sur Canal+. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour à tous.
Il y a beaucoup d'humour dans OVNI et il y a beaucoup d'humour avec vous. Ce matin, vous nous conseillez un spectacle qui vient de sortir en DVD. C'est celui de l'humoriste Laura Lone.
Oui, Le Diable est une gentille petite fille. C'est le titre de son spectacle. Elle pouvait difficilement trouver mieux parce que Laura Lone, elle dégage une image très sage. Elle a des longs cheveux blonds bien coiffés, une petite robe et une voix fluette. Mais elle raconte des horreurs et elle joue de ce contraste dès ses premiers mots sur scène.
Pardon, dans la vie je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Les gens me disent toujours, c'est normal qu'on t'écoute pas, c'est parce que dans la vie, t'as pas beaucoup d'assurance. Puis tu parles avec une toute petite voix, puis t'as l'air d'une petite fille de 8 ans, avec des très très gros nichons. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de jouer là ce soir à Lille, parce que, enfin moi je suis belge, et en Belgique... Quand t'expliques au public qu'en fait t'as plus de 8 ans, tu perds déjà tous les hommes de la salle.
Alors à ses débuts, certains spectateurs quittaient la salle quand ils s'apercevaient que ça n'était pas du tout un spectacle girly, hein, à l'opposé de ce que pouvait faire penser l'affiche. Aujourd'hui, le public la connaît davantage, hein, il sait ce qu'il vient voir, il raffole de son humour noir.
Et alors elle s'aventure, parce que c'est le cas de le dire, sur quel thème ?
Elle se moque de toutes les communautés, elle plaisante sur l'abandon d'enfants ou l'avortement, un sketch très drôle aussi autour du métier de prof, et même une théorie sur comment les parents peuvent transformer un enfant en psychopathe. C'est trash, c'est provocateur, ça déclenche des « mais c'est totalement irrésistible. Une sorte de Jérémy Ferrari au féminin. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que je vous dise ça, parce qu'ils travaillent ensemble, il est son producteur, mais c'est bien elle qui écrit.
Souvent, les gens se disent que c'est lui qui me pousse vers l'humour noir ou que c'est lui qui écrit mes textes. Et non, avant de travailler avec lui, j'avais déjà cet humour-là. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu d'un point de vue artistique. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vraiment dû me battre contre ça au début. Et ça a été très frustrant quand j'ai commencé, où les gens, à la fin du spectacle, venaient me voir et me disaient « Vous direz bravo à Jérémy Ferrari pour les textes. » Il est très bon pour guider les artistes avec qui il travaille, sans les vampiriser, sans vouloir mettre ses textes à lui ou sa patte à lui. Donc il me laisse vraiment la liberté, mais par contre il me donne des bons conseils pour m'orienter aussi dans mon écriture.
Louise, là c'est un DVD, c'est son premier spectacle ?
Oui, et il avait cartonné en salle, hein, d'ailleurs grâce à sa victoire dans l'émission La France a un incroyable talent. En 2017, c'était un vrai coup de projecteur pour elle. Un des jurés l'avait qualifiée de princesse Disney sous acide, c'est exactement ça. Et elle s'était fait remarquer.
Ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles.
Oui, c'est vrai. Et elle s'était fait remarquer en interprétant des chansons au texte corrosif. Alors pour les amateurs, sachez qu'il y en a dans le spectacle, dont une sur son amour pour la France.
Oh, t'as des qualités pourtant, t'es un des seuls pays sur Terre qui autorise depuis 60 ans le mariage posthume, c'est super. Mais quand on voit le temps que t'as mis pour légaliser le mariage gay, on se dit que visiblement ici, vaut mieux être mort que d'être pédé.
Oh oui.
Voilà, c'est Laura Lone. Le Diable est une gentille petite fille, c'est donc disponible en DVD. Et si tout va bien, elle jouera ses deux dernières dates à Paris, à l'Olympia, les 19 et 20 mars.
Tout est dans le si tout va bien. Vous êtes cliente de ce genre d'humour, Melville. Vous avez le droit de dire non, hein ?
Ah non, non. Non, je sais pas, il faut les voir sur scène, oui. Ces humoristes-là, comme ça. Quand c'est comme le théâtre, quand c'est retransmis après, c'est différent, mais pourquoi pas.
Puis là, il y a vraiment un jeu avec l'image.
OVNI, c'est pas le même genre d'humour. C'est plus familial, c'est moins
provocage. Ouais, ouais. Mais on rit beaucoup, beaucoup.
Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien aussi ça, ce côté plus BD. Le côté provoque à fond la caisse, je suis moins client.
Sauf qu'on rit dans OVNI, mais on se dit, tout est vrai. Par exemple, on entend la voix de Jean-Claude Bourret. Il y a beaucoup de Jean-Claude Bourret dans OVNI, évidemment, qui s'occupait des OVNI à l'époque. Et on voit ces phénomènes au-dessus de l'aéroport de Milan, je crois, où des pilotes d'avion ont vu des boules de feu.
Parce que Jean-Claude Bourret est un grand, grand ufologue. Il a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Et c'est son sujet à lui, à Jean-Claude.
Ouais. Mais est-ce que cette chose-là a fait changer votre point de vue? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des créatures qui viennent nous visiter?
Alors, des créatures, je ne sais pas, qui viennent nous visiter.
Parce que OVNI, ça existe. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Donc, à partir du moment, il y en a partout, tout le temps.
Il y en a même un qui est apparu à Tahiti il n'y a pas longtemps. Pendant le premier confinement, la NASA qui a déclassifié 3 images d'OVNI. Oui, les OVNI, ça existe. Après, la vie extraterrestre, même la science admet aujourd'hui qu'il y a plus de chances que ça existe plutôt que non, avec les exoplanètes.
Mais la vie extraterrestre,
c'est pas forcément E.T.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils viennent nous voir?
Alors ça, c'est le paradoxe de Fermi, c'est très intéressant. Il y a plein de théories qui ont été développées, puisque des planètes abriteraient vraisemblablement la vie. Sans doute que la vie s'est développée avant sur ces planètes-là que sur la Terre. Du coup, ils seraient plus évolués. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas une technologie plus avancée que la nôtre? Et pourquoi ils ne seraient pas déjà venus jusqu'à nous? Alors, il y en a qui pensent qu'ils sont venus, qui nous ont surveillés, qui sont partis, parce qu'on est trop nuls. Ou alors qu'ils attendent qu'on pourrisse tout pour récupérer leur terrain. On n'en sait rien.
C'est ça, Melville Poupeau, c'est le chat de Schrödinger, c'est le paradoxe de Fermi et c'est la moissonneuse batteuse. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Melville Poupeau, le comédien à l'affiche d'OVNI, la nouvelle création originale de Canal+, 12 épisodes de 30 minutes, ça démarre ce soir, c'est avec Géraldine Pellache, Michel Duhiermoz, et ça se passe dans les années 70 avec un filmage, une mise en image absolument somptueuse. Comment vous avez, rien que ça, bâti votre look?
Ah bah ça, c'est beaucoup grâce à Anthony Cordier qui a eu des partis pris sur la reconstitution très fidèle, très précise, mais en même temps pas surjouée. C'est vraiment naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas une caricature. On a vraiment l'impression, et on retrouve, moi qui ai un peu grandi dans les années 70, on retrouve tous les objets, les prémices de la technologie, de l'informatique. Et puis, Pierre Canitro, le costumier, qui m'a servi avec des pelles à tarte, des frocs pâte d'eff et des petites cravates.
Les pelles à tarte, je dis ça pour les plus jeunes, ce sont les cols de chemise. C'est pas une manière de prendre genre, le dessert.
Voilà, ouais. Des cols géants qui étaient presque des ailes de deltaplane à l'époque.
Et puis le décor également, c'est pas une caricature des années 70. Non. On n'est pas que dans du orange et du violet façon Courrèges. Il y a aussi du gris et des beaux salons moches, marronnasses en faux Louis XV. Ouais. Ça existe ça. Alors j'ai entendu dans l'excellent podcast Série Land de l'ami Eva Rock qui était là, qu'il y aura déjà une deuxième saison. Vous attendez même pas les chiffres d'audience. C'est tellement réussi que Canal Plus a décidé de remettre le couvert.
Là, ils ont été très, très cool. Et puis, ça nous a fait plaisir parce que quand on a fini la première saison, on s'est tous dit pourvu qu'on se retrouve l'année prochaine et qu'on continue les histoires de Didier Mature et de ses petits copains du GEPAN. Et il se trouve que oui, on commence en avril. J'ai pas encore lu les nouveaux épisodes. Je suis impatient parce que moi, comme un spectateur, j'attends absolument de savoir ce qui se passe après.
Ah oui, vous savez, ils vous le disent
pas. Je n'ai aucune idée comment on retrouve mon pauvre Didier Mature et ce qui va lui arriver.
Moi, j'ai vu que 5 épisodes, donc je sais même pas comment ça se passe à la fin.
Tu vas voir. Je te conseille de regarder la fin.
Et là, vous avez d'autres projets, des tournages? Comment ça se passe avec le Covid?
Écoute, j'ai tourné un film juste avant le premier confinement et un film entre les deux confinements avec Fanny Ardant. Donc j'ai eu du bol, j'ai réussi à viser juste. Et puis j'en ai un autre après la série OVNI qu'on fait en avril cet été. Et puis encore un autre en octobre. Ça va, pour l'instant, j'ai du boulot et ça tient encore. Mais je pense à tous les camarades acteurs ou techniciens qui sont beaucoup plus dans la mouise et ça, c'est triste.
En 2019, c'était après le film Grâce à Dieu, film de François Ozon, vous aviez dit « Le Christ m'a sauvé ». Mais il vous a sauvé de quoi et vous alliez vers quoi?
Il m'a sauvé de quoi? Oh là là, on a le temps de parler de ça ou un petit peu vite fait quoi? Il m'a sauvé de tout, il m'a sauvé de cette vie compliquée et difficile dans laquelle il est très facile de perdre espoir. Oula, j'ai dit quelque chose de mal.
Non, parce que vous m'avez dit, est-ce qu'on a le temps? Donc je ne pensais pas que vous alliez faire une phrase aussi courte.
J'ai essayé de résumer ça vite fait. Voilà. Ce n'est pas des sujets faciles à aborder dans les médias. Je me suis permis de le faire de temps en temps et je ne regrette pas, mais oui, c'est mon grand sujet.
Je comprends bien. Quand vous avez démarré dans le cinéma, vous étiez minot, comme on dit à Lyon. Mm-hmm. Vous aviez 10 ans, c'était Crowl Ruiz. Les critiques avaient un énorme rôle à jouer. La VOD n'existait pas, Netflix n'existait pas, ni Internet. L'iPhone n'était pas inventé. Est-ce que c'était mieux avant, le cinéma, le monde du cinéma? cinéma et cette, comment dire, cette visée vers l'art, si j'ose dire.
Non, parce que je pense que si on dit que c'était mieux avant, on pense à quoi, les années 80, mais les années 80, ça se trouve, c'était mieux dans les années 70, et puis après, ils diront, mais non, c'était mieux dans les années 50, et puis, donc il y a tout, on est jamais content, de toute façon, donc le but, c'est quand même d'arriver à se satisfaire de ce qu'on a. Et...
Alors, je vais poser différemment mes questions. Votre maman était attachée de presse de cinéma. Absolument. Maintenant, les avis des critiques, on les écoute quasiment plus. Maintenant, alors ça ce sont les avis sur Internet, et voilà. C'est Allociné, et c'est des étoiles, des pouces levés, des pouces baissés.
Tu as absolument raison, il y a une époque ou la critique, mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était peut-être un délire qu'ils ont eu, comme ça en France notamment, avec les cahiers du cinéma et la politique des auteurs, de s'imaginer que des gens pouvaient se saisir du cinéma et des films pour parler d'autres choses, de philosophie, d'esthétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd un petit peu ce pouvoir de la critique, la vraie critique, la grande critique. Il y en a de moins en moins. Et maintenant, c'est un petit peu chacun y va de son. Moi, j'aime bien. Ah non, moi, j'aime pas. Oui, mais cinéma, c'est bien.
Non, c'est vrai. J'en parle parce que vous connaissiez très bien Serge Danet, critique emblématique de Libé.
On est dans les très, très hautes sphères. Il y en a, Philippe Azoury écrit très très bien, il y a encore des critiques qui parlent de cinéma, puis c'est... mais le sujet cinéma n'a plus le même impact sur la société qu'il l'a eu au moment où c'était la grande époque de la critique.
On va se quitter en musique.
C'est on la va bande.
C'est la bande originale d'OVNI.
Ouais. À une reprise.
Merci beaucoup, Melville Poupeau.
Merci à toi.
Je rappelle OVNI avec un S à la fin. C'est la nouvelle création originale de Canal+. Et si vous ne l'avez pas, on peut s'abonner dans la journée. Et vous le verrez ce soir, 12 épisodes de 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Melville Poupeau. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec le journaliste Pascal Perry pour son émission d'actualité Périscope, c'est sur LCI. Et puis le comédien et cinéaste Maurice Barthélémy, mais non pas pour parler d'un film ou d'un sketch des Romains des Bois, mais pour son livre témoignage dans lequel il se livre beaucoup. Ça s'appelle Fort comme un hypersensible. Juste après le flash, c'est Anne Roumanoff et sa bande. Ça s'appelle Ça fait du bien. Merci beaucoup, Melville Poupeau. Merci. À tous et toutes, jeudi, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.